l'artichaut.
Artichaut.
C'est l'artichaut.
Le moment où on parle d'art. L'émission que vous retrouvez sur le 101.7.
Pourquoi c'est connu ?
C'est l'artichaut.
C'est l'artichaut. Bonjour Malo.
Bonjour Carotte. Toujours un plaisir de vous retrouver chaque vendredi soir pour le moment artistique. Bon, on vous refait pas la leçon. Vous nous connaissez maintenant. Vous savez pourquoi on est derrière les micros.
Oui, c'est que pour du bonheur, de la couleur et puis les maîtres du 19e qui m'ont personnellement moi enchantée, mais je suis pas la seule. Alors aujourd'hui, on va faire un petit 25 minutes à fleur de peau pour parler de Fantin Latour. Donc son nom complet, parce que je vais vous le dire parce que c'est super joli, il s'appelle Ignace Henri Jean-Théodore Fantin Latour. Il est né un 25 janvier 1836. Il va mourir en 1904 comme Gauguin, donc une année dure, en perte. Et c'est le plus complexe, inclassable, intense et délicat peintre. On le connaît peu, bien qu'il soit récurrent dans justement les scènes de groupe. Alors j'espère que Malo m'a dit de vous dire. Alors, j'espère que vous avez un Google pas trop loin de vous quand on fait cette petite émission, que vous l'écoutez, de manière à ce que vous puissiez aller chercher les images et des peintures et des œuvres qui correspondent au peintre dont il est question, l'amoureux du jour. Et du coup, comme ça, que vous puissiez de votre côté, avec votre propre finesse et petits aisés, là.
Avec les yeux et la sensibilité
ouais,
de chacun.
Voilà, les yeux et les oreilles. Voilà.
Donc vous pouvez taper Fantin Latour sur Google Images et du coup découvrir un petit peu ces œuvres dont tu vas nous parler.
Alors déjà, Fantin Latour, lui, il est aidé parce que son père est déjà peintre. Donc, ils sont peintres de père en fils. Et du coup, c'est grâce à le savoir et la génétique que Fantin Latour va pouvoir tout petit travailler auprès de son père Théodore. Donc, il est grenoblois. Donc, en 1850, il sait qu'il veut devenir peintre. Et donc il va quitter Grenoble pour Paris. Là, il va s'inscrire à la petite école de dessin de Paris, qui est animée par un maître qui s'appelle Horace Lecoq de Bois-Vaudran, qui innove une propre méthode d'enseignement de la peinture qui est basée sur la mémoire. Tu enregistres visuellement l'image à produire, tu la digères un peu dans ton cerveau et hop, tu vas la recracher direct à l'atelier. Donc ça, c'est une méthode qui aiguiser l'essentiel, le contraste, la finesse, la posture, les silhouettes. Donc aussi des représentations très rapides, des croquis fins. Et du coup, après ce petit prologue dans la petite école de dessin, il va intégrer l'école des Beaux-Arts en 1854. Et là, il va se retrouver dans la même classe que Edgar Degas. Le Gros et Cazin, on ne va pas faire de petites rubriques sur eux parce qu'on ne les connaît pas bien. Mais voilà, c'est tous des gars de la même époque et c'est vraiment des bons. Et puis, il va, dès les années 60, s'inscrire à l'atelier de Gustave Courbet, rue Notre-Dame-des-Champs. Et il va commencer des séries d'autoportraits. Donc là, on les voit à l'écran. Donc c'est un joli petit barbichu avec un grand front. D'ailleurs, ils se ressemblent un peu tous, parce qu'ils portent tous un peu la barbe, ils ont tous un peu des grands fronts d'intellectuels.
Il a un petit côté rouquin aussi, lui.
Il a un petit peu rouquin.
Moi, je trouve que c'est sombre, quand même, tous ces tableaux.
Voilà, c'est ça que c'est bien de dire ça, c'est un peu triste. Sombre, je dirais pas, mais
à
là,
part
il a l'air super.
Certains, mais ouais. Je trouve que sinon, le fond est... Enfin, on a vu des tableaux où c'était vraiment très vivant, avec beaucoup de couleurs et beaucoup de contrastes. Et que là, c'est vrai que ça reste dans les couleurs chaudes, mais ternes, quoi.
C'est-à-dire que c'est très aussi... Il y a une forme de sobriété dans le fond. Donc, c'est plan américain coupé à la taille. Et les fonds sont neutres. Donc, c'est vraiment... C'est pour se concentrer sur l'expression du visage. Donc il y a des moments où on voit qu'il est très concentré, enfin la réflexion là, le premier portrait plus haut avec celui-là là, avec les yeux baissés, une forme de, ben, je sais pas, on dirait qu'il est en train de penser au truc qu'il va faire, et son visage est tout grisé, alors que celui-là il a vraiment une moitié dans la lumière, une moitié dans l'ombre, la dualité. Alors, ce qui est chouette avec la peinture de Fantin-Latour, c'est que sa peinture est inclassable et elle est à la fois parfois réaliste, à la fois il utilise le symbolisme, à la fois ben, il va faire partie du mouvement des impressionnismes, donc un sentiment. Et il est très fort pour l'hyper-réalisme des portraits là, de sa famille. C'est quand même assez ahurissant, on dirait presque de la photographie.
Ouais, ça c'est vrai.
Et ensuite, les autoportraits sur lesquels il va se faire sa main, donc sur sa propre petite figure. Il va utiliser tout au niveau des médiums, hein, craie, fusain, huile, il va même faire aussi des pastels. Il va tenter donc ce fameux salon de peinture de 59, mais il va y être refusé, il y rentrera avec la liseuse. Je ne sais pas si tu la vois, là, la liseuse
juste ici.
De 61. Voilà. Avec ce tableau, donc, il peut enfin être accroché au milieu des 2000 et plus œuvres du salon. Alors, il aime bien les groupes, Fantin-Latour, et c'est pour ça que je t'ai fait mettre de côté les trois peintures de groupe, parce que c'est, pour moi, c'est ça, quoi. C'est les copains d'abord. Les copains d'abord, et aussi un cercle d'intimes qui ont à peu près la même culture, la même vision artistique.
Et vrai que le détail est dingue. C'est impressionnant.
On dirait qu'ils sont là, c'est vraiment les toucher, quoi. Et voilà, et la bande des copains. Donc en 1863, il va faire partie du Cénacle des Batignolles, où ces gens-là ont une notion très élevée de leur travail artistique, de leur mission d'artiste. Et Fantin-Latour, il se démarque parce qu'il va garder une certaine forme de romantisme. Il est vraiment un trait d'union entre la peinture romantique et la modernité. C'est-à-dire cette espèce de nostalgie qu'on voit dans les visages des gens et ce trait hyper réaliste qui fait penser à une photo et qui fait qu'on pourrait toucher les gens, la soie, leurs cheveux. Pour ça, il est super fort. Alors, c'est un voyageur. Donc, en fait, lui, il a déjà l'habitude d'aller dans le joyeux London.
Est-ce que ce serait pas un amoureux des livres aussi ?
Ah ben, de toute façon, ces gars-là, ils vivent avec des musiciens, des poètes, des critiques d'art, des peintres, des littérateurs. Donc, ils sont constamment, 24 heures sur 24, plongés dans un monde de la création, quoi.
Ouais,
et de la création.
Parce que j'observe que sur tous ces dessins, il y a presque un bouquin. Le livre est souvent présent sur les images, quoi.
Ben ouais, ça, c'était de la belle époque quand il n'y avait pas la télé, quoi. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Alors là, tu vois, là, t'es dans la période, toutes les natures mortes. Alors, pour vous dire, au niveau des genres académiques, la nature morte, les fleurs, les feuilles, là, sont considérées comme vraiment le plus pauvre sujet de peinture. Et donc, ce que j'aime bien dans ces impressionnistes-là, c'est qu'ils vont remettre au goût du jour les fleurs, les tables, les mets, qui sont à la fois, comme aussi une petite étude... ethnologique de la façon dont les bourgeois vivaient à cette époque-là. Et puis, la beauté toute simple des pétales de fleurs, la représentation fragile, qui sont aussi un peu comme des vanités, parce que les fleurs sont magnifiques. Une fois coupées en vase, elles vont finir par faner. Donc l'impermanence, la fugacité, choper la beauté dans l'instant, comme le ferait la photographie. Alors, tu vas te marrer parce que, justement, on parle de photographie.
Vas-y, fais-moi rire.
Mais il s'avère que pendant tout ce temps, Fantin-Latour fait partie des... Comme ils sont un peu modernes, ils sont fascinés par la photographie. Et Fantin se démarque en ce sens que lui, il va faire une méga grosse collection de photographies pornographiques, dites osées, qui sont d'ailleurs exposées à Grenoble, au musée de Grenoble, je ne sais pas lequel, mais en tout cas, on peut la voir, sa collecte. Et voilà, qui va laisser aussi comme ça pour nous, hein, les générations futures, et pouvoir se régaler les yeux de toutes les façons possibles. Et donc ça, c'est chouette de savoir que d'un côté, il collectionne des photos un peu pornographiques, parce que sa peinture est ultra propre, ultra digne, ultra chiadée. Enfin, c'est beau, il y a rien à dire. Et puis on a que des célébrités quoi. Alors ils savent pas encore qu'ils vont être des célébrités, c'est ça aussi qui est chouette. On a une bande de copains visionnaires qui devaient aussi d'ailleurs très bien savoir faire la fête et qui sont restés fidèles les uns aux autres. Vers les années, à partir des années 1859, il va aller à Londres. Et il a rencontré en fait un peintre qui s'appelle Whistler, qu'il a rencontré au Louvre avec ses autres copains copistes là en 58, et qui, avec lequel il a fait beaucoup de natures mortes. Ce Whistler est un fanat des natures mortes, et donc il va inviter Fantin à monter à Londres, à grimper à London. Et les Anglais vont adorer sa pâte. Et du coup, il va commencer à vendre. Et à partir de 1862, il va être exposé annuellement. Donc, il pourra tous les ans aller à Londres pour exposer à la Royal Academy. Donc, c'est le top of the world. Donc, pendant que les Manet, les Monet, tout ça, ils sont en train de galérer à Paris, lui, il s'est déjà fait sa petite clientèle. Sa petite clientèle britannique, là. Et il a des achats et des commandes. Et tout ça lui assure des sous et puis une belle réussite à l'étranger.
Erdivoi, oui, c'est toi.
Il va y en avoir au Metropolitan Museum et aussi aux Pays-Bas. La simplicité des vases, les plateaux de table... Enfin, il y a une extraordinaire mise en valeur des sujets par une forme de simplicité d'abstraction. Donc là, on retrouve son amour pour l'art japonais. Et ça, j'aime beaucoup cette simplicité. Du coup, c'est élégant. Chaque tableau a une forme de classe. Il n'y a pas de faute de goût, quoi. En tout, il va faire presque 200 compositions de fleurs. Donc, il va être vraiment comme un vrai fleuriste. Il va avoir un petit magasin de fleurs, là. Et ça doit super sentir bon dans son atelier. Donc comme il meurt en 1904, et ben c'est bien parce que sa collection va pouvoir perdurer au-delà de sa mort. Et une grande partie de son travail va se retrouver dans les musées néerlandais, au Rijksmuseum à Amsterdam. C'est encore une fois la triste aventure du peintre qui est reconnu en dernier par son pays, quoi.
Mais au plus on fait des missions et au plus j'ai l'impression, enfin là tu l'as dit toi-même, il a réussi à partir à Londres et du coup avoir une certaine reconnaissance, valorisation de son travail. Ouais, ouais. Et j'ai l'impression que tous les artistes en France ont vraiment galéré ou à chaque fois leurs peintures sont achetées mais par des musées qui sont ailleurs. Du coup, est-ce que la France n'était pas ou est encore toujours très conservatrice et pas très dans l'innovation au final?
Ah ben ça c'est sûr, la France est très conservatrice et pas dans l'innovation. Bon après là c'est difficile, maintenant c'est difficile de parler parce qu'on est dans l'époque de l'art contemporain. Et l'art contemporain c'est l'art de maintenant, donc en fait c'est pas d'art, je veux dire c'est un art... poubelle, ça veut dire l'année prochaine, c'est autre chose. Du coup, les classiques, un peu comme moi, non, sont pas trop au goût du jour. C'est ça, il faut attendre d'être mort. En général, c'est 50 ans après sa mort. La moyenne, j'ai faite, hein, la moyenne. 50 ans après ta mort, si t'as du bol, tu ressuscites. Donc, voilà. Voilà. Et après, il faut avoir des super bons amis à la télévision, à la radio, bien sûr, dans la presse, pour qu'on continue à parler de vous, ou avoir des gens qui. Enfin, aussi avoir bien géré sa collection après sa mort.
Mais l'art s'inscrit dans une certaine forme d'éternité, du coup. Enfin, en créant, c'est ça qui est beau, quoi. C'est aussi peut-être pour ça qu'on crée et qu'on aime. Être artiste, tu vois, reconnu ou pas, mais c'est qu'on a l'impression qu'on va laisser quelque chose en partant.
Alors, le problème de ça, on va laisser quelque chose en partant, c'est bien quelque part la notoriété, parce que une œuvre, enfin un tableau, s'il n'est pas maintenu dans des bonnes conditions de température et d'humidité, 100 ans plus tard, il ne reste plus grand-chose, quoi. Du coup, c'est par le biais, justement... des reconnaissances d'œuvres et de la restauration des tableaux et de leur protection dans des endroits où ils craignent rien, que des œuvres ultra anciennes peuvent nous apparaître dans les musées et ont perduré jusqu'à nous. Mais pour mes tableaux, moi, qui sont avec un apprêt, donc je veux dire bien fait, bien travaillé, bien verni, je leur donne 50 ans. si 50 ans après ma mort, quelqu'un ne s'occupe pas de les rafistoler et de les remettre en valeur, je crois qu'il ne restera plus rien. Déjà, il faut voir rien que l'œuvre des gens qu'on adore, comme Vincent Van Gogh. Les couleurs sont passées. Il y a comme une forme de délavage. En fait, c'était des couleurs pures utilisées dès la sortie du tube. Donc, ça devait cracher sa race. Et puis, voilà, un siècle plus tard...
Ouais, ça n'a pas la même couleur.
Ben non, c'est pas les couleurs que Vincent a utilisées. Ouais. C'est en live que ça se vit, la peinture. Et plus on arrive justement vers des choses sur l'émotion procurée par l'œuvre, ben en fait, plus clairement, il faut être dans une forme d'immersion et en face, une œuvre rien que pour ses yeux, quoi.
Air d'Ivoire, la radio de la joie.
Et en parlant de live, on est toujours sur l'artichaut. On parle donc de La Tour, l'artiste La Tour. Et tu nous disais tout à l'heure, tu as évoqué Grenoble.
Oui, parce qu'il est né là-bas.
Voilà, il est né là-bas. Et comme on a une radio, là, on en forme sur des artistes de notoriété. Mais sachez aussi que du coup, à Grenoble, il y a un restaurant, le Fantin La Tour, qui existe.
Le savais-tu ? Non, je ne le savais pas. Je vais rarement à Grenoble et encore moins manger au restaurant à Grenoble. Mais oui, bien sûr, donc Grenoble, ville de Fantin La Tour. Donc c'est là que vous pourrez voir toute sa collection de photos pornographiques qui sont, j'ai dû le marquer quelque part, qui sont, donc 1400 conservées au musée de Grenoble. C'est bien ça. Photos érotiques. Donc moi, ce que j'aime particulièrement chez Fantin Latour, comme j'ai aimé aussi chez Manet, c'est tout ce qu'on appelle les portraits collectifs. Enfin, tout ce qu'on appelle les portraits collectifs. Donc il y en a trois principaux. Il y a un atelier au Batignolles de 1870, un coin de table de 1872 et autour du piano de 1883. L'atelier des Batignolles, c'est un hommage clairement à Manet et aux copains avec qui il peignait. Le coin de table, c'est un hommage aux poètes. Il y a Verlaine et il y a Rimbaud. Et en fait, il y a très peu de représentations de Verlaine et Rimbaud. Donc du coup, c'est vraiment un miracle. Et autour du piano, c'est un hommage à ses copains musiciens. Dans les Batignolles, il y a Otto Schroederer, Renoir, Zacharie Astruc, Émile Zola, Edmond Maître, Fred Basile et Monet. Et du coup, quand on regarde ça, c'est comme une bande de révolutionnaires, quoi. C'est comme si c'était le Che Guevara et ses potes. C'est quand même le témoignage vivant de l'avant-garde d'un front commun et d'une vision commune en art. Toujours aussi, c'est Zola aussi qui était le copain de tous. C'est par la plume de Zola que finalement, ils sont rentrés tous au Panthéon. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir toujours un... Quand tu es artiste, musicien ou peintre, il faut avoir un gars qui fait de la littérature, du journalisme, un super éditorialiste pour parler de ce que tu fais en bien.
Bon, et ben, y a la radio Air d'Ivoire avec moi et puis il y a les Expos Ton Art de Libre Bazar. Je fais au mieux pour toi, ma petite carotte.
Merci, mon chouchou d'amour. L'artichaut à la carotte, c'est très bon. Sauce malo, c'est délicieux.
Vous êtes bien sur Radio d'Ivoire.
Alors, je voulais vous dire aussi, vous connaissez le fameux, justement, on parlait de littérateur, là, le prix Goncourt. Donc, le prix Goncourt de la littérature, là, qui est un prix super célèbre qui récompense le meilleur roman, en général, de l'année. Donc, c'est Edmond Goncourt, le gars qui a inventé ça. Et donc, il a dit que c'était ces tableaux, là, de Fantin-Latour, c'était comme un distributeur de gloire au génie de brasserie. Donc, je te laisse prendre la notion de cette phrase. Donc, en fait, voilà, ça veut dire que ces gars-là, c'est des gros buveurs fêtards, pas du tout des peintres, et que leur rendre gloire et hommage, c'est vraiment une honte et un scandale. Donc, ce gars-là se trompait aussi grandement. Donc, ils n'ont pas su. Après, ne pas reconnaître le génie de son époque, c'est peut-être une preuve de bêtises et de d'être obtus et pas vraiment ouvert, mais cela dit c'est d'un classique aberrant,
sordide.
Sordide, c'est que voilà, on a tendance à aimer ce que les l'art royal, parce que bon, ce qu'il y a, c'est que on est aussi c'est le passage à la République, tu vois. Ce qui se fait, c'est que on va sortir d'une peinture étatiste, symbolique, un peu cucu, qui met des filles à poil parce que c'est des nymphes et des déesses, mais qui n'osent pas représenter une prostituée ou une buveuse d'absinthe, tellement c'est dégradant, c'est-à-dire on gomme, on idéalise une société divine avec un panthéon, tout le monde est sur son nuage, et puis on parle pas du tout des blanchisseuses, des gens de la rue, de la pauvreté, des gamins mineurs... et de la pollution. Et en fait, voilà, ben ces gars-là, c'est les premiers militants de leur temps. C'est-à-dire, ils ont dit stop à l'art impérialiste. Nous, vos cucuteries, là, qui veulent rien dire avec des anges et des déesses, nous, on ne se reconnaît pas là-dedans. Nous, on veut de la vérité, de la sincérité, du sang, des couilles, des tripes. Et on veut marquer aussi notre mal-être et notre envie d'une république, d'un système de classe peut-être un peu plus cool et sans fracture. Voilà, c'est les rêveurs de notre siècle, quoi. C'est eux qui ont fabriqué... C'est par ces gars-là qu'on arrive à la république. Je veux dire, l'art est quand même porteur d'énormément de choses... C'est le symptôme de la civilisation. Donc,
c'était beau, ça.
Ça demande du courage, de l'abnégation. Et je comprends que l'effet de groupe ait été vraiment nécessaire, plus de force. Donc il disait, Fantin Latour, quand nous réunissons, nous gagnons en nombre et nous devenons donc plus aventureux. Je pensais que cela pouvait durer, c'était mon erreur. Donc bien sûr, comme ils sont morts tous tôt parce qu'ils étaient malades, ils n'ont pas pu voir le travail accompli. Mais moi, je leur rends grâce et je dis bravo les gars, le travail, il a été plus qu'accompli. Et pour moi, vous êtes les modernes, pour moi, vous êtes ceux dans quoi la peinture doit continuer à chercher. Je veux dire, si on parlait d'art contemporain, c'est ça, c'est dénoncer ce qui se passe aujourd'hui, mais sous une forme belle, pas sous une forme brutale, animale et abjecte.
Tu connais Banksy ?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Ça, c'est un des artistes modernes à qui on peut valoir du respect quand même.
Oui, évidemment, déjà rien que pour...
Il y a beaucoup de beauté dans ce qu'il fait et c'est très engagé.
Ouais, beaucoup de poésie engagée. Ça, c'est vrai qu'il a un langage qui lui est propre et qui est à la fois violent et poétique. Pour ça, il a vraiment... il a sa patte, il a sa touche. Et puis en plus, quand on voit du Banksy, on le reconnaît tout de suite. Après, il y a pour sa folie furieuse d'aller mettre ses tableaux dans les musées. Enfin, la façon à la Daft Punk dont il a géré sa carrière. Après, malheureusement, je ne le connais pas personnellement, mais je vois bien qu'il y a tout un tas de récupérations de ça derrière. Donc, comment la peinture de rue, le street art, devient pérenne, c'est-à-dire un truc qui doit être provisoire et qui doit passer la main. Maintenant, les gens, ils découpent des bouts de mur sur lesquels il y a des pochoirs. Ils embarquent sous leurs bras des cabines téléphoniques parce que, pareil, il y a un stencil dessus. Alors que voilà, c'est de l'art qui doit être dans la rue et qui doit enchanter, mourir et puis être remplacé. Mais je suis très contente qu'il soit devenu une star de son vivant. Après, il y en a plein en Amérique latine, par exemple, l'art du pochoir ou de la peinture, de la fresque dans la rue est super développé. Donc à Lima ou dans plein de grosses villes, tu te balades et tu passes de fresque murale en fresque murale, toutes plus magnifiques et splendides les unes que les autres, parce qu'il y en a un, il est champion du lettrage, un, il est champion de l'architecture, un, il est champion du portrait hyper réaliste comme en photo. Donc du coup, à eux tous, ils font des trucs fabuleux. Moi, j'adorerais qu'il y ait beaucoup plus de... Les pouvoirs publics, là, ils ont des armées entières d'embellisseurs d'urbanisme. Ils pourraient plus souvent leur faire appel que de leur foutre des amendes et des procédures derrière les bombes. Hein.
Vous êtes bien sur Radio Diwa. On
va revenir à Fantin. Donc, il va se marier avec une Victoria Dubourg en 1876, qui est peintre, elle aussi. Du coup, c'est une famille assez aisée. Ils ont une belle maison en Normandie, donc il va passer tous ses étés en Normandie à Burey. Il va faire donc du paysage un peu réaliste. Il va faire aussi une série d'intérieurs dans les tons gris-brun, tout en continuant à peindre pour les Anglais qui n'arrêtent pas de lui demander des commandes de portraits et autres. Il laisse derrière lui énormément de lithographies. Il laisse au musée d'Orsay la nuit, qui va être achetée directement par l'État dès 1897. Donc ils vont se réveiller un petit peu tard, mais quand même, il y a une de ses œuvres. Et puis, voilà, on va dire que c'est le dernier des symbolistes, peut-être.
C'est une belle conclusion.
Voilà, puis quand même, voilà, j'ai dit aussi, on a écouté un peu de musique. Donc,
oui, tu nous as choisi du Berlioz pour le 101.7.
Ouais. Il y avait donc ses muses à Fantin-la-Tour, c'est Berlioz, Schumann ou Wagner. Donc on a choisi un petit morceau de Berlioz. Vous allez voir, comme ça, vous reconnaîtrez. Parce que comme la peinture, la musique et tout ça, ça va très, très, très bien ensemble. C'est très lié.
amours, le Diwa, la radio. J'ai deux amours, R Diwa, oui, c'est toi.